VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 12 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
Une délégation de la CEDEAO se rend demain à Banjul pour tenter de faire plier Yahya Jammeh, qui n'accepte plus sa défaite électorale face à Adama Barrow.
Washington annonce des sanctions ciblées contre deux hauts responsables en RDC. L'Union européenne a déjà sanctionné sept responsables congolais.
L'Union européenne publie son rapport sur les élections au Gabon et relève des anomalies dans le processus.
Antonio Guterres prête serment aujourd'hui comme nouveau secrétaire général de l'ONU. Il doit assumer ses fonctions au début du mois prochain.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Gambie, le vainqueur de la présidentielle, Adama Barrow, a appelé aujourd'hui Yahya Jammeh à céder le pouvoir immédiatement. Une délégation de quatre chefs d'État de la CEDEAO doit arriver demain à Banjul pour dissuader M. Jammeh. Eric Manirakidza nous en dit plus.
Le président élu Adama Barrow a estimé que Yahya Jammeh devrait démissionner maintenant. Il a perdu l'élection, nous ne voulons pas perdre de temps, a précisé M. Barrow. Dans un brusque revirement vendredi soir, Yahya Jammeh a réclamé un nouveau vote. Pourtant, il avait le 2 décembre reconnu sa défaite. Son parti a annoncé que M. Jammeh va saisir la Cour suprême, mais il devra nommer plusieurs juges pour compléter la Cour, un pouvoir que l'opposition ne reconnaît pas au président sortant. La libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, a dit samedi que le revirement de M. Jammeh était inacceptable et menaçait la paix non seulement la Gambie, mais toute la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Elle se rend demain à Banjul à la tête d'une délégation avec le Nigérien Muhammadu Buhari, Sierra Leone Ernest Bai Koroma et le Ghanéen John Dramani Mahama. Ils vont tenter de persuader Yahya Jammeh à transmettre le pouvoir au président élu Adama Barrow.
La mission d'observation de l'Union européenne a rendu public son rapport final sur le scrutin présidentiel du mois d'août dernier au Gabon. Les observateurs européens ont remis en cause la crédibilité de la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Les explications d'Abdourahmane Dia.
Le rapport final des observateurs européens a formulé 11 recommandations pour corriger ce qu'ils qualifient d'anomalie survenue lors du scrutin du 27 août dernier. La mission européenne, qui avait déjà été très critique envers tout le processus électoral, suggère une garantie à l'accès non interrompu aux réseaux Internet et aux réseaux sociaux, y compris pendant la période électorale et post-électorale. La mission recommande aussi des changements pour garantir l'indépendance de la justice. Enfin, les observateurs s'interrogent sur le taux de participation très élevé dans la province du Haut-Ogooué, qui est de plus de 99% selon les chiffres officiels, alors que la moyenne nationale est à 54% sans les votes dans le fief du président Bongo. Cependant, la mission n'a pas recommandé de sanctions contre le régime d'Ali Bongo Ondimba, comme le souhaitait l'opposant Jean Ping, mais demande plutôt l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales qui ont fait des dizaines de morts.
L'administration américaine a prononcé des sanctions financières contre le ministre de l'Intérieur congolais, Évariste Boshab, et le chef du renseignement, Caleb Mutondo. Par ailleurs, le gouvernement congolais a qualifié d'illégales les sanctions de l'Union européenne contre sept responsables militaires et de la police. Les sept, dont le général Célestin Kanyama, sont visés par un gel d'avoir et une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union. Ils sont accusés de graves violations des droits de l'homme lors de manifestations en septembre. L'Union européenne menace d'étendre cette liste en cas d'obstruction du processus électoral. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
Le gouvernement kényan va réfléchir sérieusement à un éventuel retrait du Kenya de la CPI, a affirmé le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et son vice-président William Ruto avaient été inculpés, on se le rappelle, par la Cour pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008, mais les poursuites ont été abandonnées. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la Cour le mois dernier.
Au Kenya, toujours l'accident d'un camion-citerne qui a explosé samedi soir a fait au moins 40 morts, selon un nouveau bilan. Il s'est produit à Karey, entre Nairobi et Nakuru. Le camion immatriculé en Ouganda roulait vite avant de passer un ralentisseur. Après l'explosion, une dizaine de véhicules ont pris feu.
Devant des partisans à Kassala, le président soudanais Omar Hassan el-Béchir a prévenu que toute tentative visant à renverser son régime serait sévèrement réprimée. Des militants ont appelé via les réseaux sociaux à une nouvelle grève et des manifestations les 19 et 20 décembre pour renverser le régime soudanais. Ce régime ne sera pas renversé par des claviers et WhatsApp, a prévenu M. Béchir. Plusieurs manifestations récentes contre la hausse des prix ont été rapidement étouffées par la police anti-émeute et des opposants ont été arrêtés.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a annoncé l'arrestation de 4 suspects après l'attentat suicide contre une église copte au Caire qui a fait 24 morts dimanche. 3 hommes et une femme ont été arrêtés et 2 autres personnes sont toujours recherchées, a dit M. Sissi lors des funérailles des victimes. Le chef de l'église copte Tawadros II a qualifié l'attentat de coup dans le cœur de l'Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 53 civils, dont 16 enfants, ont été tués ce lundi dans des frappes aériennes visant un secteur contrôlé par le groupe djihadiste État islamique dans le centre de la Syrie. C'est ce que rapporte l'AFP citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette région est sous le contrôle des djihadistes du groupe État islamique qui ont reconquis dimanche la ville antique de Palmyre dans la province voisine de Homs.
Le prochain secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prête serment aujourd'hui dans une cérémonie officielle à l'Assemblée générale. Il présentera aux 193 pays membres ses projets face aux multiples crises mondiales et pour réformer l'institution vieille de 71 ans. Salwa Jafari nous en dit plus sur son parcours.
À 67 ans, l'ancien Premier ministre du Portugal, haut commissaire aux réfugiés, sera donc le 9e secrétaire général des Nations Unies. Guterres a une formation d'ingénieur, fervent pratiquant, il entame son parcours politique auprès de mouvements catholiques. C'est la révolution des œillets en 1974 qui met fin à 50 ans de dictature, qui le pousse à s'engager. Il rejoint le Parti socialiste et passe de longues années au Parlement, où il était surnommé marteau-piqueur parlant. Sa victoire aux législatives de 1995 le propulse au poste de Premier ministre. Parmi ses décisions les plus marquantes, rejoindre la zone euro. La conjoncture économique difficile au Portugal lui coûte son fauteuil en 2001. En 2005, il devient haut-commissaire aux réfugiés. Il le restera jusqu'en 2015. Fin diplomate, travailleur acharné et méthodique selon ses confrères, son plus grand défi était la pire crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également réformé son agence en réduisant d'un tiers les effectifs à Genève pour envoyer plus de personnel sur le terrain.
Les autorités françaises ont interpellé 11 hommes dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a fait 86 morts à Nice le 14 juillet. Le groupe est soupçonné d'avoir aidé le Tunisien Mohamed Lahouadj Boulel à se procurer des armes. L'AFP précise que 10 d'entre eux ont été placés en garde à vue à Nice et un 11e vendredi à Nantes. Au total, 6 personnes ont été mises en examen et écrouées, mais aucun élément ne démontre avec certitude que ces personnes étaient au courant du projet de Boulel de lancer une attaque terroriste à l'occasion de la fête nationale française.
L'équipe du président élu américain Donald Trump a annoncé la nomination de John Kelly à la tête du département de la sécurité intérieure. Le point avec Dilly Dico.
John Kelly, général de corps d'armée à la retraite, a été choisi pour diriger le ministère de la sécurité intérieure. Il est le 3e général à intégrer l'administration Trump. Il sera en charge de la protection des frontières, l'une des promesses électorales de Donald Trump. Dans son communiqué, le président élu a dit de l'ancien marine, âgé de 66 ans, qu'il est la bonne personne pour mener l'urgente mission de stopper l'immigration illégale et d'assurer la sécurité des frontières américaines. John Kelly, dont l'un des fils a perdu la vie en Afghanistan, est connu pour avoir été le responsable de la prison militaire de Guantanamo sur l'île de Cuba de 2012 à 2016. Donald Trump a déjà nommé deux autres généraux à la retraite, Michael Flynn comme conseiller à la sécurité nationale et James Mattis comme chef du Pentagone, ce qui soulève des inquiétudes sur le contrôle des militaires par le pouvoir civil.
Par ailleurs, Lockheed Martin a réagi aujourd'hui aux propos de Donald Trump, critiquant le coût exorbitant des avions F-35 fabriqués par le groupe de défense américain. Jeff Babione, directeur du programme F-35, s'est dit prêt à répondre à toutes les interrogations du président élu sur le programme militaire le plus cher de l'histoire des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Nanit Talani.
La Bourse de Tunis a annoncé avoir donné son accord de principe pour l'introduction de la société Meubles Intérieurs sur le marché. L'opération portera sur la cession de 1,52 million d'actions existantes, soit 36,1% du capital social de la société. Elle sera pilotée par la société de bourse MENA Capital Partners. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a lancé un emprunt obligataire de 148,2 millions de dollars. L'offre cible exclusivement les investisseurs qualifiés de droit marocain et porte sur 15 000 titres d'une valeur nominale de 99 260 000 dollars dès le 23 décembre 2016. L'opération est assortie de maturité de 7 et 10 ans avec des taux variables. Les souscriptions seront ouvertes du 14 au 16 décembre 2016. La banque Attijari Wafa veut renforcer sa présence au Maghreb et développer ses activités en Afrique centrale et occidentale. Pour finir, le FMI déconseille à la Zambie de se lancer dans un nouvel eurobond. Les conditions sont devenues plus difficiles sur le marché international. Le FMI désapprouve aussi le choix de la Zambie de réduire le poids de sa dette de 19% à 15%. Il estime que refinancer la dette la rendra encore plus chère, d'autant que 2022 et 2025 sont encore loin et qu'il n'y a pas lieu de se précipiter.
C'est lundi, plein feu sur les stades. Salut Nicolas Pineau.
Bonsoir Chérubin.
Parlons tout d'abord du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Le Real Madrid, tenant du titre, a hérité d'un tirage favorable avec la rencontre contre Naples pour ses huitièmes de finale. Le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Les autres huitièmes de finale verront s'affronter Manchester City à Monaco, Benfica Dortmund, Bayern Arsenal, Porto Juventus, le Leverkusen contre l'Atlético Madrid et enfin Séville contre Leicester.
Les 16e de finale de l'Europa League sont aussi connus, Nicolas.
Tirage aussi facile pour Manchester United qui affrontera Saint-Etienne. Le choc entre prétendants comme Villarreal, AS Rome ou encore Mönchengladbach contre la Fiorentina, selon le tirage au sort effectué ce lundi par l'UEFA.
Ronaldo, Ballon d'Or, ce n'est pas une surprise, mais les médias espagnols ont déjà vendu la mèche.
Et oui, certains médias espagnols ont déjà vendu la mèche, tweeté lundi après-midi. Et oui, comme Marca qui a déjà tweeté ce lundi après-midi, la une de France Football, sacré Cristiano Ronaldo. On rappelle que France Football paraît tous les mardis. En fait, le scoop, ce sera à 20h, heure française, 19h, temps universel. C'est là que le journal L'Équipe et France Football vont dévoiler le résultat, mais il n'y a pas de surprise. Ronaldo a dominé comme jamais. D'ordinaire, c'est à 19h temps universel que les journaux français L'Équipe et France Football dévoilent leurs résultats. On rappelle que Ronaldo a dominé comme jamais l'année 2016 avec la victoire historique à l'Euro 2016 du Portugal et également la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ses rivaux Lionel Messi, quintuple Ballon d'Or ou encore Antoine Griezmann n'ont pas su soutenir la comparaison.
Coupe du monde des clubs, le représentant africain déjà éliminé.
Comme le tout-puissant Mazembe l'an dernier, le représentant du continent africain n'a pas brillé au Mondial des clubs lors de son entrée en quart de finale. L'équipe japonaise des Kashima Antlers s'est qualifiée pour les demi-finales dimanche à Osaka. Grâce à sa victoire sur les Mamelodi Sundowns 2-0, le club japonais affrontera en demi-finale la formation colombienne de l'Atlético Nacional, alors que la seconde affiche opposera le Real Madrid aux Mexicains du club américain.
Et quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois depuis le 25 novembre, Russell Westbrook n'a pas fini une rencontre d'Oklahoma City avec un triple-double. Victoire contre Boston 99-96. De son côté, Golden State a surclassé Memphis 110-89 samedi.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau, que l'on retrouve à 19h temps universel dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être à votre compagnie, Nathalie Barge et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, la République démocratique du Congo.
Les États-Unis viennent d'adopter des sanctions contre deux hauts responsables de la RDC, le ministre de l'Intérieur et le chef du renseignement. Plus tôt dans la journée, sept responsables congolais, dont Célestin Kanyama, le chef de la police, étaient visés par des sanctions de l'Union européenne. Pour une analyse, Anastasie Tudiech a joint à Bruxelles maître Innocent Touagiramungu.
Les sanctions prises par l'Union européenne, c'est principalement les restrictions de déplacement concernant les personnes qui sont nommées dans le journal officiel. Et le gère des avoirs donc, qu'ils ont dans certains pays, principalement de l'Occident. Ça peut concerner à la fois de l'argent déposé dans les banques et éventuellement les immeubles que certains auraient dans les pays de l'Occident.
Alors parmi ces sept personnes, le commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise, Gabriel Amissi Kumba, également Célestin Kanyama, commissaire de la police nationale congolaise. Qui sont ces profils? Pourquoi eux?
Ah voilà. En fait, comme vous l'avez remarqué, l'Union européenne a ciblé des responsables de haut niveau. Donc on peut penser que c'est suivant le principe dit supérieur hiérarchique. Donc ce sont des gens qui coiffent ces différents services de l'armée, de la police, donc de la garde nationale. Et donc c'est sur base de ce principe reconnu en droit international, dit supérieur hiérarchique. C'est sûr que les gens qui ont été dans les massacres, c'est principalement du 19 et du 20 septembre, ce sont peut-être les subalternes, mais on peut supposer qu'ils ont des instructions ou alors qu'ils ont bénéficié de l'omission de ces autorités. Et donc c'est ça la base légale, donc les légitimes et juridiques qui peut fonder la décision de l'Union européenne, même s'ils n'ont pas des éléments concrets concernant une décision éventuelle que ces autorités auraient prise.
Pourquoi ces sanctions de l'Union européenne interviennent-elles maintenant, alors que les événements pour lesquels ces sept personnes sont sanctionnées ont eu lieu les 19 et 20 septembre?
C'est une mise en garde de l'Union européenne au Congo pour dire, écoutez, on ne va pas tolérer que vous continuez avec la musculation pour faire tout le monde dans le pays et donc pour ne pas trouver une solution politique.
Maître Innocent Touagiramungu était joint à Bruxelles.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent de multiples violations des droits de l'homme. Les ONG estiment que les arrestations arbitraires et la torture sont en perpétuelle augmentation dans le pays, 9 mois après le déclenchement de la crise électorale. De Brazzaville, le reportage de Nguelen Gousseau.
La période chaude des élections est pourtant passée, mais les activistes des droits de l'homme continuent d'enregistrer de nombreux cas de violations. Pour le président de la DUC, une ONG congolaise, en 9 mois, depuis l'éclatement de la crise électorale, la torture et les enlèvements sont au top dans le pays. Luamba Moké détient même des images des victimes de ces violences.
Depuis le référendum en 2015 et ensuite il y a eu les élections présidentielles le 20 mars 2016 et depuis lors il y a eu pas mal des arrestations arbitraires et il y a eu effectivement des tortures, les enlèvements à 2h du matin et contrairement à la législation nationale de notre pays. On a projeté les images de torture que les citoyens subissent, et ce qui fait que la torture est réelle dans notre pays.
Mais les autorités estiment que tout cela n'est que de la pure critique stérile, savamment entretenue par des pamphlétaires des droits de l'homme. Pierre Mabiala est ministre de la Justice et des Droits humains.
La République du Congo n'a de leçon à recevoir d'aucun pamphlétaire ni d'aucun maître chanteur, alors que, pendant qu'ils se livrent à de telles manœuvres, le Congo leur offre tous les droits. Le temps des pamphlets et de critiques stériles en matière de droits de l'homme au Congo est révolu. Le Congo avance. Le Congo travaille à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Nul ne réussira à le détourner de cette voie noble, choisie par son peuple, qui en fait un idéal. Pendant que les pamphlétaires et les maîtres chanteurs passent leur temps à satisfaire les intérêts, il faut le dire, égoïstes, des lobbies étrangers.
Mais pourtant, Trésor Dilakende, directeur exécutif de l'OCDH, reste convaincu que le ministre Mabiala se trompe.
C'est vraiment ridicule. Il a raison en tant que ministre de la Justice, membre du gouvernement, de prendre une telle position, mais il a tort d'ignorer la réalité. Augmentation des cas de torture, y compris pour des motifs politiques. Et il y a une forte augmentation des cas d'arrestation et de détention arbitraire. Sur des bases purement subjectives, les forces gouvernementales se permettent de priver des individus arbitrairement leur liberté et on enregistre des lieux de détention non officiels.
10 mois après l'élection présidentielle, certains Brazzavillois se disent toujours inquiets pour leur sécurité. Récemment, c'est Franck Eloge Mpassi, le porte-parole du passeur Ntomi, qui a été arrêté depuis son quartier de Mayanga. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est un vent de changement qui souffle sur les Nations Unies. L'ex-premier ministre du Portugal, António Guterres, élu à l'unanimité au poste de secrétaire général de l'ONU en octobre dernier, prête serment aujourd'hui. L'ancien haut-commissaire aux réfugiés remplace officiellement le 1er janvier Ban Ki-moon à la tête de l'organisation. L'heure est donc au bilan, mais aussi de voir ce que l'avenir réserve au nouveau patron onusien. Pour faire le point, Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial de l'ONU sur l'Afrique.
Je me souviens très bien quand je servais en tant que porte-parole du président de l'Assemblée générale lors de la 65e session, quand est venu le temps pour le secrétaire général Ban Ki-moon de prêter serment pour un deuxième mandat. On ne savait pas alors que ce secrétaire général ferait face à une situation internationale absolument difficile et un grand défi, notamment sur la question du Sud-Soudan. Nous nous souvenons tous de l'indépendance de ce nouveau pays, le 193e État membre, et le Sud-Soudan qui est donc indépendant depuis le 9 juillet 2011. Ce Sud-Soudan, malheureusement, est tombé dans une crise très difficile. Il y a aussi eu d'autres défis en Afrique, mais je dois dire que l'Afrique a aussi offert, n'est-ce pas, son lot de très bonnes affaires, notamment avec l'élection récente au Ghana et d'autres élections démocratiques par ailleurs. Le défi pour ce secrétaire général aurait été en réalité de rassembler toute la famille des nations autour de questions importantes comme celle du changement climatique ou la lutte contre les extrémismes. Et cela, c'est le nouveau secrétaire général, M. António Guterres, qui prête serment en ce jour, le 12 décembre. C'est lui qui va devoir continuer le travail.
Mais l'hebdomadaire britannique The Economist tape très fort et juge Ban Ki-moon comme l'un des pires secrétaires généraux qu'ait connu l'ONU. Est-il possible de défendre le bilan de M. Ban ?
Une bonne connaissance de l'ONU devrait rappeler que, en matière de paix et de sécurité internationale, c'est d'abord et avant tout le Conseil de sécurité associée à la première responsabilité. L'Assemblée générale, bien évidemment, d'autres organes de l'ONU sont importants, des organes principaux, comme le Conseil économique et social, mais on ne pourrait porter sur lui et sur lui seul la responsabilité de questions que la famille des nations n'a malheureusement pas pu résoudre.
Quelle influence, justement, pourrait avoir son successeur, le Portugais Antonio Guterres, sur le Conseil de sécurité et ses 5 membres permanents dotés du fameux droit de veto afin de pouvoir faire plus pour l'ONU et pour la paix dans le monde, en Afrique notamment?
C'est un très grand homme politique, de la très grande finesse et beaucoup de compétences, parce qu'il a non seulement dirigé le gouvernement de son pays, mais aussi des institutions importantes comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est donc dire que la famille des nations a beaucoup de chance. Maintenant, M. Guterres va certainement faire usage de son très haut sens diplomatique pour influer sur les décisions que ne peuvent prendre que des organes comme le Conseil de sécurité quand il s'agit de paix et de sécurité internationale. Cependant, d'autres organes ont leur importance et devront jouer leur rôle.
Jean-Victor Nkolo de l'ONU était joint à New York.
Il y a un an, ici aux États-Unis, la maire de Flint déclarait l'eau. Plutôt, il déclarait l'état d'urgence. Elle déclarait l'état d'urgence. Les habitants de cette ville du Michigan ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. La ville avait préféré prendre son eau de sa propre rivière plutôt que de payer un système hydraulique. L'eau non traitée est arrivée dans les robinets des habitants. Près de 30 000 personnes ont été sévèrement empoisonnées dans le but d'économiser quelques millions. VO Afrique s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux. Nastasia Peteuil s'est rendue à Flint pour voir les travaux qui sont en cours afin de remplacer les canalisations de 50 000 résidences.
Ce matin, les pelleteuses s'activent sur Ida Street, dans le sud-ouest de Flint. Quelques résidents regardent les ouvriers creuser la terre. À Flint, de nouvelles canalisations remplacent les vieux tuyaux rouillés par l'eau corrosive de la rivière. Le capitaine Mike Daniel est en charge des travaux. À la retraite depuis peu, il a été appelé à la rescousse par la mairie de Flint.
Nous ne savons pas combien de canalisations nous devons remplacer. Près de 30 000 personnes ont un compteur actif. La moitié ont besoin d'avoir un remplacement. Nous pouvons remplacer entre 200 et 300 canalisations par mois, donc si on fait le calcul, ça nous emmène jusqu'en 2017.
La lenteur des travaux agace les habitants, surtout Karen River, la maire de Flint. Le changement de canalisation ne permet toujours pas d'avoir de l'eau potable dans les robinets. Filtres et bouteilles d'eau en main, les habitants sont en colère. Pour Karen River, si elle avait les fonds nécessaires, le processus serait plus rapide.
Le plus grand obstacle, c'est d'avoir notre destin dans les mains de quelqu'un d'autre. L'État fédéral et celui du Michigan gèrent notre argent. Et c'est vraiment frustrant, énervant, décevant. Car si nous avions l'argent, nous serions intervenus beaucoup plus tôt. C'est la source de notre frustration. Cela fait 3 ans que la crise a commencé. 3 ans. Et nous avons toujours des filtres et des bouteilles d'eau.
Mais la maire essaie de voir le côté positif de la crise. Contrôlée fiscalement par l'État du Michigan, la ville a choisi de faire appel à des entreprises locales pour mettre la crise au profit du comté.
En ce qui concerne le remplacement des canalisations, nous avons embauché des entreprises de Flint et ses environs. Nous voyons cela comme une opportunité de développer notre économie.
Les habitants gardent un goût amer de la situation. Ils doivent continuer à payer leurs factures d'eau entre 70 et 150 dollars par mois. Le comble dans le Michigan, surnommé l'État des Grands Lacs et encerclé par des millions de mètres cubes d'eau potable.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver le reportage « L'eau de la colère » sur notre site internet voafrique.com. Et rendez-vous demain pour évoquer le sentiment d'injustice qu'éprouvent les habitants de Flint et aussi les procédures judiciaires en cours.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31. 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïman. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Gaby Dorsil.
On remercie notre ami John Dryden à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.